Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci parce que nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Jésus. Oh Ramasembeke Rakamandi. Oh, nous voulons vivre dans une atmosphère, Seigneur, une atmosphère de ta présence, une atmosphère saturée par ta parole, influencée par ton royaume, Seigneur. Nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi, tant besoin de ta grâce. Tant besoin de ton amour. Tant besoin de ta présence, Seigneur. Rostamako rakaman sembebeki rakota korekia. Breshteki basonde ki mamamande dedekia. Breka pasote ki babakoreki babambebeki. Rosopakoa embededekia. Breki pasoa. Ora mambabande dedekia. Oh, je prie, Seigneur, pour que tu parles des cœurs. Que tu parles au cœur, Seigneur. Parce qu'ici, il y a peut-être un David, il y a peut-être un Joseph, Seigneur. Il y a peut-être un Moïse parmi nous, Seigneur. Mais il n'est pas encore, Seigneur, révélé. C'est pourquoi je prie pour que ta grâce vienne et touche. Et que ta parole nous parle. Illumine les yeux des cœurs, je prie, mon Père. Illumine les yeux des cœurs. Pour que nous puissions comprendre cette parole, non pas avec nos têtes seulement, Seigneur, mais avec nos cœurs. Afin que cette parole soit infusée en nous, qu'elle produise une transformation. Parce que Seigneur, nous ne voulons pas adhérer à ton évangile, nous ne voulons pas adhérer à ta parole, mais nous voulons que ta parole nous transforme, Seigneur. Nous voulons que nous soyons bouleversés, transformés complètement, littéralement, Seigneur. Rosa Pacorekia, merci Jésus pour ce peuple qui a soif de toi. Dans le nom de Jésus, nous prions. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Faites cette confession après moi. Père, je veux m'engager à écouter ta parole avec un cœur ouvert. Je veux la comprendre, non seulement avec ma tête, mais aussi avec mon esprit. Je veux la pratiquer. Je veux réaliser cette destinée que tu as pour moi, cette vision que tu as mise dans mon cœur. Alors que je priais, j'ai vu, Seigneur, j'ai rêvé les choses les plus extraordinaires. Et Seigneur, je veux entrer dans ces choses. Je te promets, Seigneur, d'être fidèle, d'être loyal, d'être intègre à tout ce que tu m'as montré et tout ce que tu me montreras dans le futur. Tout ce que tu me montreras prophétiquement, Seigneur, je veux y être fidèle dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Nous sommes en train de parler du leadership. Et nous avons tant besoin de parler du leadership. Nous avons beaucoup de gens qui sont sauvés. Et je vous rappelle qu'ici en Afrique, le plus gros problème aujourd'hui, ce ne sont pas les ressources naturelles, parce qu'il y en a plein. Ce n'est pas le continent. Ce continent n'a jamais été maudit, loin de là, au contraire. Rappelez-vous que ce qui fait une nation, ce sont ses habitants. Et si les habitants se donnent au Seigneur, et ce sont des gens d'excellence, obligatoirement, la transformation qui s'est opérée à l'intérieur va devenir visible à l'extérieur. Et ça, c'est un principe divin. Je vous rappelle que Dieu n'a pas d'alliance avec nos nations. Il a une alliance avec les individus. Et plus nous sommes d'individus transformé, littéralement bouleversé par sa puissance, par son royaume, influencé par sa présence, par sa parole, par son caractère, alors, qu'est-ce qui va se produire? Plus nous transformerons nos nations. Et le leadership a été laissé aux païens. Nous avons laissé tout l'argent aux païens. Et je vous rappelle que l'argent a du pouvoir. Nous avons laissé les domaines sociaux aux païens. Nous avons laissé les domaines politiques aux païens. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les païens, en majorité, dominent les nations, même là où il y a beaucoup de chrétiens. Et ça, ça doit changer. Et ça changera par toi. Ça changera par moi. Je vous rappelle, c'est bien de prier, frères et sœurs, mais il faut prendre nos responsabilités. Moi, je vois trop de chrétiens qui sont là en train de prier, et qui ne prennent pas leurs responsabilités. Ils sont là, et tout dépend de Dieu d'après eux. Dieu va nous donner. Oui, mais d'accord, mais tu as une part à jouer. Et entre autres dans le leadership. Nous sommes en train d'étudier le leadership selon le caractère de Dieu. Parce que ça, c'est important. Nous voyons souvent des mauvais modèles de leadership, ce qui fait que nous avons besoin, nous les hommes, nous nous reproduisons quelque part dans les modèles que nous voyons. Si nous voyons un mauvais modèle, nous avons tendance à dire, bah, tout le monde fait ça, donc bah, je le fais moi aussi. Et tu as besoin de bons modèles. Tu as besoin de bons modèles. Il y en a, ça existe, mais toi un jour, tu dois toujours avoir la vision de devenir un modèle qui va inspirer les autres. Et particulièrement dans le leadership. Au niveau du christianisme, ici sur le continent, le plus grand besoin que nous avons, ce sont des églises établies, pas des églises démarrées. Il y a beaucoup d'églises à droite, à gauche, partout, mais nous avons besoin d'églises établies, avec des leaders qui sont des gens qu'on écoute, des gens qui sont des gens d'expérience, des modèles, et même les gens qui dirigent dans les différentes sphères, à ce moment-là, viennent nous voir et nous disent « qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ?» C'est ça, vers ça que nous devons converger, frères et sœurs. Nous sommes en train d'étudier les lois du leadership. Je vous ai montré brièvement que Dieu veut que l'homme dirige. L'homme est appelé à être un leader. En chacun de vous, il y a un leader potentiel. C'est peut-être encore complètement enfoui en vous, mais peu importe. Ça doit se révéler tôt ou tard. Je vous rappelle que le leadership s'attend à définir une capacité à mener des personnes ou des organisations vers l'atteinte d'objectifs, à réaliser une vision avec un groupe. Le leadership est associé à l'émanation, nous avions vu ça hier, reconnu à une personne ou un groupe de personnes dans son aptitude à motiver, à diriger, à mener, à impliquer, impulser, guider, inspirer et ou à influencer son entourage. Nous avons vu que cette semence de leadership qu'il y a en chaque être humain doit être développée et nourrie. D'abord, tu dois la découvrir, tu dois la développer et tu dois la nourrir. Je vous ai montré que Dieu a voulu les hiérarchies. Dieu a voulu, il y a un ordre divin hiérarchisé. Je vous ai montré que dans la Trinité, il y a un ordre. Parmi le monde invisible, il y a un ordre. Je vous ai montré les chérubins, les séraphins, les archanges. Je vous ai montré que les archanges, c'est chef des anges, littéralement dans le grec, avec deux mots grecs, arché et angelos, chef des anges, les anges. Donc tout le monde invisible est hiérarchisé. Et dans le monde naturel, évidemment, il y a une hiérarchie. Donc nous avons étudié ces choses-là. Je reviens très brièvement là-dessus. Je vous ai montré que dans le monde visible aussi, il y a les gouvernements. C'est voulu par Dieu. Les systèmes de gouvernement sont voulus par Dieu. Pasteur. Le pasteur, c'est lui qui est le leader dans l'église. La famille, le mari, au travail, le directeur, le boss, partout, il doit y avoir de l'ordre et il doit y avoir du leadership. Quand il n'y a pas de leadership, c'est l'anarchie, c'est le désordre. Et il y a un ordre divin que nous devons connaître. Parce que si tu marches dans le désordre, on dit souvent le désordre, c'est des gens qui pêchent, etc. Oui, dans un sens, c'est ça le désordre. Mais il y a aussi le désordre dans tes mentalités. Le désordre dans tes mentalités, c'est de ne pas comprendre un certain nombre de principes du royaume de Dieu. Dieu veut que nous comprenions ce qu'est le leadership. Je vous rappelle que Romains 13 a été extrêmement mal interprété par beaucoup de gens. Je vous rappelle que Dieu ne veut jamais un gouvernement mondial, c'est ce qu'il a cassé à Babel. Parce qu'avant Babel, il y avait de l'anarchie, n'importe qui pouvait aller chez n'importe qui, il n'y avait aucune loi. Et quand il est dit que le magistrat est serviteur de Dieu, Dieu n'a pas placé le bonhomme, il a placé des systèmes pour limiter le péché, je vous le rappelle. Ok, on va pas revenir dessus parce que c'était un peu, j'ai fait quand même une bonne parenthèse là-dessus. Alors, je vous ai montré aussi que, à partir du moment où nous sommes dans une vision, que Dieu nous a donné une vision pour quelque chose. Une vision, c'est pas forcément voir quelque chose là, d'un seul coup, tu as les yeux ouverts. Ah, une vision, c'est pas ça. C'est ce que Dieu implante dans ton cœur. D'accord ? Parfois, ça se manifeste par une vision que tu vois. Mais la plupart du temps, ce sont des choses dont tu rêves. Tu es là dans la louange, l'adoration, et tu dois faire du business dans un certain secteur, et ça n'arrête pas de revenir. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis en train de louer et adorer Dieu. Oui, parce que le Saint-Esprit est en train de travailler. Ça peut être servir le Seigneur, être dans un des ministères à plein temps. Mais beaucoup de chrétiens sont frustrés parce qu'ils disent une vision de Dieu, ça veut dire obligatoirement être là devant la chaire en train de prêcher avec un micro. C'est pas seulement ça. Nous avons tous des appels différents. Tu peux être doué pour le business et créer immensément des richesses et financer le royaume de Dieu. Tu peux être dans un domaine où tu vas commencer une université et Dieu t'a donné une vision extraordinaire. Tu peux être dans le domaine bancaire, tu peux être dans tout un tas de domaines musical, etc., etc., etc. Dieu a mis des dons en toi. C'est pas forcément un des cinq ministères. Mais tu peux être une super bénédiction là où tu es, c'est ta destinée. Par contre, c'est une vision. Dieu n'est pas le Dieu du petit. Moi, j'en ai marre d'entendre des chrétiens qui donnent des témoignages où il faut chercher un microscope électronique pour voir un atome d'où Dieu aurait éventuellement agi. Vous voyez ce que je veux dire ? Dieu est dans le business de l'immense. Si tu vis des petites choses, c'est parce que tu limites Dieu. Et par ta foi, entre autres. Que quelqu'un dise « Amen ». Alors, nous avons vu qu'il y a des lois du leadership, il y a des lois divines qui régissent le leadership, selon le caractère de Dieu. Ça, c'est très important. Je vous rappelle que vous devez fonder votre vie et ou votre ministère. Quoi que vous fassiez, de toute façon, il y a trois piliers sur lesquels vous devez constamment scanner. C'est la connaissance de la parole, je vous le rappelle, l'onction de Dieu, la présence de Dieu, l'influence de la présence de Dieu dans vos vies, et bien sûr, le caractère de Christ. J'ai parlé de la foi déjà dimanche dernier, pour ceux qui étaient là. Là, on parlait de la parole, ok ? Maintenant, là, ici, on parle du caractère. Le leadership, ça va être l'implémentation des valeurs divines en toi. Je te rappelle que ce qui est autour de toi, le monde dans lequel tu es aujourd'hui, la dimension dans laquelle tu es, c'est le reflet de ce que tu es à l'intérieur. Ça, si tu comprends ça, tu vas découvrir beaucoup de choses. Si tu n'es pas satisfait de la dimension dans laquelle tu es, que ce soit dans ta relation avec Dieu, que ce soit dans ta relation avec les autres, que ce soit dans tes finances, que ce soit dans ta santé, c'est parce que tu n'as pas compris que d'abord tu dois changer de l'intérieur et mettre les valeurs divines. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je vous rappelle, ça aurait été beaucoup mieux traduit. Soyez transformés par le changement de vos mentalités. C'est-à-dire acquérir les mentalités du ciel, du royaume de Dieu, la pensée de Christ qu'il y a dans sa parole. Et à ce moment-là, comme l'intérieur est transformé, obligatoirement, l'extérieur va se soumettre. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc le plus gros travail, nous l'avons vu, c'est où ? C'est à l'intérieur de nous. Vous allez le voir d'ailleurs. Alors, une loi. La première loi que nous avions vue, c'est la loi du couvercle. Vous vous rappelez qu'il y a des choses qui nous empêchent d'aller plus haut, qui sont des obstacles, comme si il y avait ce couvercle qui t'empêche de réaliser ta vision. Et on a vu que l'habilité d'un leader détermine son efficacité. L'efficacité, c'est amener les choses à se produire, la puissance à amener les choses à se produire. Donc nous avons vu qu'il fallait identifier ces couvercles, qu'il y avait des couvercles internes, des couvercles externes, et des couvercles que l'on ne pouvait pas enlever. Nous avons pris que d'autres enlèveront, c'est Dieu qui va nous amener ces personnes. Nous avons pris ces deux personnages, David et Saül. David qui avait un arrière-plan épouvantable, du rejet de sa famille, etc., etc., qui n'avait aucune éducation, etc., etc. Saül qui lui était déjà un beau grand bonhomme, qui avait été d'une bonne famille, son papa l'aimait bien, etc., etc., etc. Et les deux avaient la même destinée, devenir roi. Il y en a un qui a lamentablement échoué, parce qu'il avait des couvercles internes. Saül était paranoïaque, nous l'avons vu jaloux, il avait beaucoup de problèmes de caractère qu'il n'a jamais voulu changer et ça a été un drame. Je vous rappelle, vous pouvez être appelé par Dieu, vous pouvez avoir une onction et vous pouvez tout mettre par terre. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas le caractère. Sans le caractère, vous pouvez avoir les dons les plus extraordinaires de Dieu. Nous le voyons beaucoup chez les gens qui font de la louange et de l'adoration, malheureusement. Où d'un seul coup, on fait d'eux des stars. Des gens qui chantent bien, il y a des gens qui les repèrent. Et qu'est-ce qu'on fait ? On commence à les environner et à leur bourrer la tête. Tu seras quelqu'un de grand. Et la personne commence à monter et paf ! Comme des gens aussi qui démarrent des fois dans le ministère, où Dieu les oint et ils font des signes, des prodiges et des miracles. Et qu'est-ce qui se passe ? Le gars, il commence à se monter la tête. Il passe à la station-service. Et au bout d'un moment, il est tellement gonflé qu'il explose. On appelle ça les étoiles filantes. Tout le monde dit, ah, regarde, ah oui, il faut aller là. Et puis d'un coup, paf ! Pourquoi ? Caractère. 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 Le caractère, c'est la pire des choses auxquelles vous aurez à faire face. Votre pire ennemi, n'est pas le diable. Votre pire ennemi ne sont pas vos circonstances. Votre pire ennemi, c'est vous-même. Ça, vous le découvrirez. C'est terrible de découvrir ça. Parce qu'on est là, on se bagarre contre le diable, on dit « Ah, le diable ah !» Puis après, tu réalises que c'est toi ton pire ennemi. Donc, il faut que tu apprennes à soumettre ta chair. Donc, nous avons vu... Il y a quelqu'un qui a changé la sonorisation. Là. Est-ce qu'on peut la remettre normalement? Merci. Parce que d'un seul coup, ça paraît un peu bizarre. Donc, ici, nous avons vu David et Saül. Nous avons vu qu'il y a des couvercles externes. Et c'est souvent des excuses pour nos échecs. Des gens qui disent « Ah, si j'avais eu l'éducation. Ah, si j'avais eu l'argent. Ah, si j'avais eu un mentor. Ah, si j'avais... » Alors, j'aurais pu. Non. Ça, ce sont ces couvercles que tu dois enlever dans ta vie. Externe, ce sont les choses, tu n'en es pas responsable. Par contre, tu dois faire quelque chose et ça ne doit pas être une excuse pour tes échecs. Je te rappelle que si tu blâmes les autres, tu blâmes le diable, tu blâmes les circonstances pour tes échecs, tu n'y arriveras jamais. Il faut que tu comprennes une chose, ce n'est ni les mauvaises circonstances, ton arrière-plan qui doit déterminer ton futur. Ce n'est ni l'ennemi, les attaques de l'ennemi qui peuvent déterminer la limitation à ta vie. Et ça, il faut que tu changes. Et quand tu changes, que tu dis non, ce n'est pas ces choses-là qui vont m'empêcher de faire ce que le Seigneur m'a appelé de faire, à ce moment-là, tu prends la bonne décision. Ensuite, nous avons vu qu'il y a des couvercles internes et ceux-là sont difficiles souvent à enlever parce que nous sommes les seuls à ne pas nous voir de l'extérieur. Tous les autres êtres humains nous voient de l'extérieur, comment on se comporte. Mais nous sommes les seuls dans la boîte. Donc des fois, tu as des comportements. Je parle des comportements, ça ne veut pas dire le péché, c'est-à-dire aller mentir, voler, etc., etc. Je parle des comportements. Parfois, nous avons des comportements relationnels. Quand on est leader, il faut faire très attention. Il y a des leaders qui ruinent leurs relations constamment parce qu'ils ont des caractères absolument épouvantables. Des gens qui sont conflictuels. Ce sont des leaders qui sont conflictuels. Des gens qui s'emballent à la première rencontre et qui mettent n'importe qui, n'importe où dans des responsabilités à côté d'eux. Qui ne sait pas tenir sa langue, qui ne sait pas comprendre les autres, etc., etc. Et puis des gens qui sont coléreux, jaloux, nous l'avons vu, orgueilleux, paranoïaques, insécures. Tout ça, ce sont les leaders qui ont ces problèmes à l'intérieur et il va falloir changer. Quand tu es leader, il va falloir vraiment que tu changes. Plus tu changes à l'intérieur, mieux ça vaudra. Il y a d'autres couvercles que nous avons vu que c'est seulement Dieu qui nous envoie divinement, qui nous donne des rendez-vous divins pour nous amener beaucoup plus haut, qui nous connecte avec des gens qui sont beaucoup plus haut et d'un seul coup, il y a plein de choses qui s'ouvrent, mais ça, ce sont des temps divins dans lesquels tu peux entrer seulement si tu as attiré la faveur de Dieu. Alors, deuxième loi que nous avions vue, c'est la loi de l'influence. Nous avons vu que le leadership, c'est de l'influence. Leadership égale influence. Si tu n'as pas d'influence ou très peu d'influence, tu accompliras peu. Si tu as beaucoup d'influence, tu vas accomplir beaucoup. Mais l'influence, ça ne vient pas du jour au lendemain. Nous avons vu l'histoire des 12 espions avec Josué et Caleb. Josué et Caleb sont devant une foule que les 10 autres espions a chauffée contre Dieu, contre Moïse. Et Josué et Caleb commencent à se lever et dire « Non, 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 Dieu va nous donner le pays, on va y aller. » Et la foule dit « On ne veut même pas les écouter, ceux-là. » Sauf que Josué, 40 ans plus tard, quand il va avoir la succession de Moïse, il va amener le peuple d'Israël et là, tout Israël le suit et personne ne bronche. Quelle est la différence entre Josué qui se présentait avec les 10 autres espions, les 11 autres précisément avec Caleb, et 40 ans plus tard, lorsque Josué va amener tout le peuple d'Israël à conquérir Canaan. Ça s'appelle l'influence. C'est ça la différence entre les deux. Quand il était avec les 12 espions, il n'avait aucune influence. 40 ans plus tard, il avait été mentoré par Moïse, et quand Dieu lui dit, maintenant ne crains point, tout ce qui est dans Josué 1, on connaît bien, etc., etc., prends courage, etc., là, il prend la suite, il dirige le peuple là où il veut. Il fait ce qu'il veut avec le peuple, parce que le peuple... La différence, c'est l'influence. L'influence, l'influence. Et nous avons que l'influence, ça se gagne petit à petit. Ne pense pas parce que tu as une vision du Seigneur, que tu as un bon cœur, que tu pries, que vraiment tu es dans le bon, au bon moment, au bon endroit, à faire la bonne chose. Et je vous ai dit que moi, c'est quelque chose que je pensais avant, c'était la seule clé. C'est pas la seule clé. Être au bon moment, au bon endroit, et à faire la bonne chose, c'est une clé indispensable pour voir Dieu agir. Oui, mais c'est pas la seule. C'est pas la seule. En tout cas, c'est très important, mais c'est pas la seule. Il va falloir qu'il y ait plus. Il va falloir que tu gagnes en influence. Et nous avons vu comment gagner en influence. Nous avons vu que petit à petit, il y a des choses qu'on doit faire, entre autres, cultiver notre relation avec Dieu, obéir sans réserve, la foi, l'engagement, etc. Le partenariat. Et on a vu que Josué a un parcours très intéressant. Au début, il est jaloux. Hein, tout au début, il est jaloux parce qu'il entend des Israélites prophétiser. Il va voir Moïse, il dit, mais Moïse, tu sais, il y a des gens là du peuple qui prophétisent et ils ne sont pas là dans notre groupe, là, directement. Et Moïse dit, mais hein, moi j'ai pas de souci, je suis pas un leader insécure, entre guillemets, c'est ce qu'il était en train de dire. Il dit, si tous peuvent prophétiser, mais je serais très content moi, je serais très heureux. Mais Moïse au début, Josué au début avait ces problèmes-là. Et puis il les a résolus petit à petit, parce qu'il était immature dans son leadership. Et ensuite, nous avons vu comment il a échoué par manque d'influence, comment il s'est laissé mentorer par Moïse, c'est-à-dire, mentorer, ça veut dire qu'il était sous un leader, et il a appris de ce leader, il a drainé, il a puisé au travers de ce leader, et ce leader l'a formé pour sa succession. C'est très important aussi. Et puis 40 ans plus tard, quand il va recevoir l'onction, il va prendre la succession du plus grand leader de l'Ancien Testament. Et croyez-moi, quand vous prenez la succession d'un leader qui est déjà gigantesque, vous avez intérêt à faire attention. Parce que quand vous prenez la succession d'un leader qui a déjà amené, dont tout le monde parle, et que vous prenez sa suite, les gens ont tendance à avoir ce qu'on appelle l'esprit. C'est mal utilisé comme expression, mais peu importe, vous comprendrez, ça veut dire la mentalité de la comparaison. Et ils diront, ah, quand c'était Moïse, c'était beaucoup mieux. Ah, quand c'était un tel, à l'époque, c'était mieux. Et vous savez, quand ça revient aux oreilles d'un leader qui a pris la succession d'un leader qui est bon, qui était excellent, ben, je vous dire une chose, il n'aime pas trop ça. Et c'est pour ça que quelqu'un qui prend une succession, il doit faire extrêmement attention. Nous parlerons de cette loi de la succession dans la 21e loi. Je vous garderai samedi jusqu'à 3h du matin. La loi du processus maintenant. Troisième loi, c'est la loi du processus. Même si je suis tout seul, ce n'est pas grave, je m'enseignerai à moi-même. Ça me fait du bien d'écouter la parole. La loi du processus, c'est la troisième loi. Troisième loi. Le principe de cette loi, notez que le leader se développe jour après jour. Le leader se développe jour après jour, non pas du jour au lendemain, c'est-à-dire ce n'est pas en un jour qu'il va devenir un grand leader. C'est un processus. C'est un processus. Le leader se développe jour après jour, pas du jour au lendemain, c'est un processus. Très important à comprendre, un processus. Ça, nous n'aimons pas. Le facteur temps rend les gens extrêmement impatients. Moi, j'ai appris une chose, c'est à faire travailler le temps en ma faveur. Parce qu'au début, le temps nous bouffe. Le temps, on se dit, mais il y a tant d'années que je fais ça, il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans, et alors? Ok. Mais maintenant, je sais mieux utiliser le temps. Je sais utiliser le temps comme un bénéfice plutôt que quelque chose qui est un déficit. Il faut apprendre à savoir faire ça, petit à petit. Donc, un leader se développe, et ce n'est pas comme la bourse. La bourse, vous investissez et vous voulez spéculer, du court terme. L'investissement dans le leadership prend du temps. Si vous pensez que vous allez réussir du jour au lendemain à accomplir votre vision, vous avez tort. Ça ne marche pas du tout comme ça. Je vous rappelle que quand Dieu vous donne une vision, Dieu vous voit prophétiquement dans un état final. Notez ça quelque part. Quand Dieu nous donne une vision, Dieu nous voit et nous montre, en fait, prophétiquement, quand Dieu nous donne une vision, Dieu nous montre prophétiquement dans l'état final dans lequel il nous voit, dans lequel il nous veut. Mais, tristement, ça veut dire que tu n'y es pas encore. Et c'est ça souvent qui nous rend, je dirais, qui est difficile à accepter. Donc Dieu te voit dans un état prophétique, dans l'état dans lequel il te veut en finalité. Le problème, c'est que tu es là, tu es touché par Dieu. Dieu te donne ça, tu te vois rêver, tu as des confirmations prophétiques, etc., etc., etc. Ah, c'est extraordinaire. Pasteur Roland, tu sais, le Seigneur m'a dit que je serais ceci et cela. Pasteur Roland dit, gloire à Dieu, amen. Le problème, c'est que tu n'es pas encore ça. Et entre-temps, entre le moment où tu reçois ta vision et le moment où tu vas rendre cette vision matérielle, tangible, réalisée, eh bien, il va y avoir tout un aspect de processus. Il va falloir que tu grandisses dans ton leadership. Parce que je vais te dire une chose, il y a beaucoup de gens, et je le répète, les cimetières sont remplis des plus grandes richesses de la terre. La plupart des gens ont été enterrés avec des visions qui n'ont même pas accompli, qui n'ont même pas commencé, et c'est triste. Il y a beaucoup de gens qui ont un problème. Moi, j'ai remarqué ça beaucoup dans le corps de Christ. Dieu parle, Dieu appelle, Dieu inspire, Dieu révèle. Le problème, c'est que la plupart des chrétiens n'arrivent pas à relier ce qu'ils reçoivent du ciel avec la réalisation de ce qu'ils ont reçu. Et ça, il y a vraiment un problème parmi les chrétiens. Beaucoup de gens disent des choses qu'ils ont reçues. Ça fait plus de 30 ans que je suis sauvé. Et j'ai vu plein de gens, mais des gens qui ont reçu des paroles, mais c'était incroyable. Je me souviens d'un frère dans l'église où j'étais il y a bien des années. Il avait, mais c'était incroyable. À chaque fois qu'il y avait un serviteur de Dieu qui passait, s'il y avait une confirmation sur son appel. Guérison, miracle, ministère, etc. Je ne sais même pas si ce frère aujourd'hui va encore dans une église. C'est terrible, on voit plein de trucs comme ça. Parce que les gens sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que l'état prophétique dans lequel Dieu nous voit n'est pas l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Bien au contraire, nous sommes des bébés au moment où il nous appelle. Et quand tu te vois dans des choses, tu te dis, mais c'est incroyable, mais le Seigneur, j'ai peur de ça. Je me dis, oui, parce que ça c'est dans l'état dans lequel Dieu te veut en finalité. Le problème c'est qu'il va falloir que, entre temps, tu remplisses le fossé. Et pour remplir le fossé, il y a du boulot. Et ça ne se fera pas tout seul, ça ne se fera pas par hasard, et ce n'est pas Dieu qui va le faire, c'est toi qui vas être obligé de le faire. Et souvent les gens là disent, moi j'attends que Dieu fasse ceci, Dieu va faire cela, Dieu va me mettre là, Dieu va, oui d'accord, mais Dieu attend aussi que tu fasses quelque chose, que quelqu'un dise amen. Vous êtes avec moi, j'espère. Donc le leadership, ce n'est pas une affaire d'investissement, ce n'est pas du jour au lendemain, et il va falloir avoir un agenda journalier bien étudié. Si vous voulez réussir, il vous faut un agenda journalier bien étudié. C'est-à-dire que jour après jour, il va falloir travailler à votre leadership. Si vous pensez que d'un seul coup, vous allez arriver de la hauteur 0,1 à la hauteur 10 000, vous vous trompez, vous vous illusionnez. C'est faux. En fait, le leadership va être quelque chose de complexe. Il y a plein de facettes dans le leadership. Il y a le respect, il y a l'expérience, il y a la force émotionnelle. On va voir tout ça. Les dons, la discipline, la vision, le mouvement constant, le timing, etc., etc. Il y a plein de facettes du leadership dans lequel tu vas être façonné, mais ça se passe jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Si vous étudiez la vie des leaders, personne ne vous dira, sauf le pasteur Roland, d'un seul coup, j'ai eu un succès extraordinaire dans l'église que j'ai faite. Personne ne vous dira ça. Les gens, souvent, qui ont réussi, ils n'oseront pas vous avouer les souffrances par lesquelles ils sont passés. Parce qu'il y a une vie. Nous allons voir que chaque leader qui réussit une grande vision passe par un désert et par des souffrances. C'est obligatoire. Mais il y a des gens qui seront suffisamment pudiques pour ne pas trop en parler, pour différentes raisons. Pour différentes raisons. Mais chaque leader qui a accompli une grande vision est passé par des temps de solitude, des temps de remise en question, des temps où personne ne croyait en eux, des temps difficiles. La souffrance est une école extraordinaire pour former un leader. Mais personne n'aime ça. Je pense que si je vous dis qui aime souffrir ici, personne ne va lever sa main, c'est normal. Et pourtant, il y a un message sur la souffrance, un message tout à fait biblique. Premier épître, deuxième épître de Pierre nous en parlent. La souffrance biblique n'est pas d'être malade, d'être pauvre, d'être stupide, d'être inéduqué, d'être... Non, ça c'est pas la souffrance biblique. Ça c'est les conséquences de la malédiction, de la chute et de la loi. Mais nous en avons été rachetés de la malédiction, de la loi. Donc là, tu peux tout changer. La souffrance biblique, c'est toutes ces persécutions sataniques alors que tu avances et d'un seul coup, le diable essaie de voler ta destinée. Parce que le diable est un voleur de destinée. Il va falloir que tu fasses très attention à ne pas te laisser voler ta destinée. Il y a un personnage biblique que nous allons étudier assez brièvement ce matin. Mais avant cela, j'aimerais juste faire une dernière remarque. Le leadership n'est pas quelque chose de statique, c'est-à-dire quelque chose qui ne bouge pas. Au contraire. Ce n'est pas là où vous commencez qui compte. Je vous ai raconté l'histoire merveilleuse hier de Robert Kayanja, qui est un prédicateur ougandais, qui a une histoire absolument fabuleuse, et qui sort d'un quartier pauvre de Kampala, et qui aujourd'hui a un ministère international de guérison. Il a construit une super église à Kampala, etc. etc. Donc, ce n'est pas de là où tu commences qui est important. C'est là où tu veux aller. Là où Dieu t'a montré que tu dois aller. C'est ça qui est important. Nous allons étudier brièvement l'histoire de Joseph. Joseph, eh bien, vous le verrez dans Genèse 37, je vous invite à relire Genèse 37 et 39 et 47. Ça, vous lirez à la maison parce que vraiment, on n'a pas le temps de le faire. 37, 39 et 47. Joseph, c'était quoi? Joseph, c'était un petit gamin, un adolescent, nous l'avons vu un peu hier, qui avait un super appel de Dieu, petit chouchou de la famille, privilégié, etc., etc., mais qui va faire une sacrée gaffe. Quand il va recevoir ses visions et ses révélations, il va les partager dans une atmosphère familiale qui était absolument déjà épouvantable. Et Joseph, à 17 ans, fait de graves erreurs, qui vont d'ailleurs lui coûter d'aller à l'école de la souffrance. Et souvent, nous faisons des erreurs quand nous recevons ce que le Seigneur nous a montré. Le pasteur ne veut pas nous laisser prêcher. Très bien, moi, je vais te montrer qui je suis, pasteur. Je vais partir de l'église avec un groupe de gens et je vais moi-même faire mon église. Bon courage. Avec une telle attitude, tu n'iras pas loin. Il y a beaucoup de gens, vous savez, qui ne comprennent pas. Souvent, les gens, parce que Dieu leur a parlé, ils pensent que l'avenue de « je peux faire ce que j'ai envie de faire » est ouverte devant eux. Non, absolument pas. Dieu te parle, mais Dieu d'abord doit te purger. Il doit te forger. Il doit te briser. Vous savez, le brisement, on n'en parle plus beaucoup. On parlait beaucoup du brisement dans les églises de Pentecôte il y a des années, mais le brisement, c'était « je reste sur une chaise et j'ai peur des autres. Je n'ose pas sortir parce que si je sors, je vais peut-être pécher. » Vous voyez, ça a été un faux brisement. En fait, le brisement dont souvent il a été parlé, ça a été finalement l'écrasement de la personnalité et des visions et des rêves que Dieu nous donnait. Et ça, ce n'est pas biblique, ce n'est pas ça le brisement. Le brisement, c'est d'être purgé, de vouloir faire ta volonté à ta façon et aussi d'apprendre à dépendre de lui à 100%. Mais ça, ça s'apprend. Et c'est l'école de Dieu. Joseph va passer par l'école de Dieu. Et il va passer par à peu près ce que tout leader potentiel, parce que Joseph, à 17 ans, était un leader potentiel. À 30 ans, 13 ans plus tard, c'était un leader formé qui a amené, à éviter la plus grande catastrophe du pays le plus puissant du monde, de l'époque. C'était l'Égypte. Il a été un instrument. Joseph n'était pas un prédicateur. Ce n'était pas un prophète. C'était quelqu'un qui écoutait Dieu et qui a reçu des choses surnaturelles, mais surtout c'était un homme qui a compris comment gérer ses erreurs, et qui est devenu un homme d'excellence. En 13 ans, Joseph est passé d'un petit adolescent orgueilleux, vaniteux, avec un appel de Dieu sur lui, à un homme d'une maturité absolument fabuleuse. Il a été le conseiller d'un roi, et il a été placé le deuxième de la nation la plus puissante du monde. Et il a amené une solution divine à des problèmes humains. J'aime trop l'histoire de Joseph. Joseph est le type de l'homme qui est capable de relier ce qu'il reçoit du ciel et l'appliquer, c'est-à-dire amener des solutions divines à des problèmes humains. Et ça, c'est notre rôle, frères et sœurs. Notre rôle n'est pas seulement de prier. Dieu m'a dit. D'accord, ça c'est très bien. Dieu t'a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a dit ? Parce que ça, c'est aussi le gros problème qu'on a. On a beaucoup de gens qui vont dire, Dieu m'a dit, je prie, je jeûne, je fais ceci, je fais cela. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a dit? C'est ça qui m'intéresse. Et Joseph a vraiment été d'une immense sagesse. C'est un homme qui a apporté des solutions pratiques. Quand on étudie la façon dont il a apporté la solution devant Pharaon, c'est extraordinaire. Il faudrait que Pharaon puisse nommer un homme et qu'on stocke là pendant tant d'années, etc. Il a été pratique, Joseph. Il y en a marre de voir ces chrétiens qui reçoivent des choses de Dieu et qui vont vers les païens en disant « Le Seigneur m'a dit, et le Seigneur m'a dit qu'il faut que tu fasses ceci et que tu me donnes cela et que blablabla. » Ça n'a aucun sens. Je t'ai dit, tes actions parlent plus fort que tes mots. Avant d'ouvrir ta bouche, Jésus ceci, Jésus cela, prouve qui tu es au travers du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, ouvre ta bouche. Parce que les gens seront attirés par quelque chose de surnaturel qu'il y a en toi, quelqu'un qui est en toi et que tu émanes. Parce que nous avons trop de gens qui parlent et qui se comportent n'importe comment et qui font n'importe quoi ou qui ne changent strictement rien. Ils sont en train de parler d'un Dieu puissant et c'est la misère totale, à la fois intellectuelle, à la fois relationnelle, à la fois financière, à la fois dans le corps, à la fois partout. Et ça, ce n'est pas juste. Que quelqu'un dise « Amen » si vous me suivez. Trois choses communes à tous les leaders. Numéro un, ils ont tous des rêves et des visions pour un avenir meilleur. Ça, tous les leaders vous diront, les leaders potentiels vous diront, moi, voilà ce que je veux faire parce que j'ai vu ça, parce que mon cœur est brisé par rapport à cela et je veux apporter une solution. Donc, il y a toujours quelque chose, un avenir meilleur. Vous ne suivrez jamais quelqu'un qui va vous dire, on va tout détruire. Non, ou alors il faudrait être fou et démoniaque. Vous allez suivre, si vous êtes une bonne personne, vous allez suivre quelqu'un qui va apporter quelque chose de meilleur. Une dimension à laquelle vous-même vous aspirez en tant que suiveur. Donc tous les leaders potentiels, entre autres, ont quoi ? Ont des rêves et des visions pour un avenir meilleur. Numéro 2, la vision et le visionnaire sont inséparables. Numéro 2, la vision et le visionnaire sont inséparables. C'est très important aussi ça. La vision et le visionnaire sont inséparables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est au visionnaire d'accomplir la vision. Vous ne pouvez pas dire aux gens, accomplissez la vision que j'ai. Non, c'est toi qui vas travailler pour accomplir ta vision. Numéro 3, aucune vision d'un leader ne peut être cachée, mais elle doit être partagée de la bonne façon. Aucune vision d'un leader ne peut être cachée, mais elle doit être partagée de la bonne façon. Alors quand on voit la vie de Joseph, ben on voit un peu tout cela. Joseph n'avait aucune expérience du leadership, il avait une vision, il l'a partagée, mal partagée, il en a parlé, les histoires de gerbes, les histoires d'étoiles, et il demandait à ses frères de dire, mais finalement, qui sera l'étoile tout en haut qui va dominer sur les autres étoiles? Qui sera la gerbe tout en haut qui s'élève contre les autres gerbes? C'était pas difficile à savoir que c'était lui. Et ça a créé encore plus de haine. Ça a été mal partagé. Comme tous les leaders potentiels, Joseph n'avait aucune expérience du leadership. Il n'avait aucune influence sur ses frères. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Dieu a dû le mettre à l'école. Vous savez, Dieu ne crée pas les mauvaises circonstances dans lesquelles nous nous mettons. Dieu n'a pas créé la circonstance de vendre Joseph par ses frères. C'est Joseph qui a créé cela. Par contre, Dieu a utilisé les circonstances. Ce n'est pas la même chose. Faites attention à ça, parce que là aussi, il y a beaucoup de confusion. Quand on dit Dieu a permis cela, bon oui c'est vrai dans un sens, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens, ils confondent un peu dans le sens où ils disent bah, Dieu permet que je souffre, Dieu a envie que je souffre entre guillemets. C'est pas ça. Dieu utilise nos erreurs pour nous mettre à l'école. Ah, ça fait mal des fois. Mais je vous garantis, quand vous faites des erreurs, marchez à l'école de Dieu. Dieu va utiliser cette erreur pour t'apprendre quelque chose. Et en fait, Joseph, c'est exactement ce qui s'est passé pour lui. Il était immature, mais Dieu va utiliser ses erreurs et le péché de ses frères. Parce que Joseph va se retrouver complètement isolé, esclave. Lui qui était le fils d'un prince, il s'est retrouvé à être un esclave à nettoyer par terre. Mais on va voir que Joseph avait une attitude exceptionnelle à ce moment-là. D'un seul coup, il a été complètement bouleversé par cette mauvaise expérience. Vous savez, parfois, il y a des mauvaises expériences par lesquelles nous devons passer pour nous remettre entièrement en question. C'est triste à dire, mais on en a besoin. Des fois, il faut que Dieu nous permette qu'on soit chouf comme ça, à cause de nos erreurs. Dieu nous laissera tomber dans certains pièges, des hommes, et parfois même de l'ennemi, pour nous apprendre quelque chose. Il nous en tirera de toute façon. Si nous avons la bonne attitude, il va nous en tirer. Mais il va utiliser ça pour nous former, pour nous forger. Et Joseph avait besoin de ça. Joseph avait besoin d'être en dehors du papa qu'il chouchoutait, là, qui lui achetait tout ce qu'il voulait, qui lui donnait du privilège sur ses frères parce qu'il l'avait eu avec la femme qu'il préférait, etc., etc. Et Joseph va être forgé à ce moment-là. Il va être purifié, il va être préparé. Et ça, c'est commun à tous les leaders. Tous les leaders doivent être préparés, purifié et forgé. Préparé, purifié et forgé. Vous comprenez pourquoi j'aime tant enseigner sur ce sujet. Je trouve ça passionnant. Notez trois choses dont les leaders ont besoin pour être utilisables. Trois choses dont les leaders ont besoin pour être utilisables. Numéro 1, un temps de maturation. Un temps de maturation. Il faut que vous compreniez que la plupart des leaders que vous pouvez voir ici, qui ont réussi ou qui réussissent, ils ont été dans l'obscurité pendant des années. C'est-à-dire que personne ne croyait en eux. C'est-à-dire qu'ils sont restés des inconnus. Des inconnus. Ça me fait penser à Terry McAlmon. Terry McAlmon, il y a pas mal de chants qu'on chante de lui. tu es grand et tu fais de grands miracles, etc., etc. C'est un chanteur américain très connu. J'écoutais son témoignage il y a quelque temps. Et cet homme-là était ultra doué. Il avait gagné des concours de piano, etc., etc., dès son jeune âge. D'ailleurs, il a failli mourir à la naissance. Et quand il a grandi, sa mère l'a mis au piano et il était ultra doué. Il gagnait des concours de piano, etc. Il venait d'une famille chrétienne. Et puis, on ne sait pas pourquoi, personne ne croyait en lui. Personne ne lui avait donné à diriger la louange ou à s'occuper au niveau de la musique de l'église. Et c'était vraiment difficile pour lui parce qu'il était ultra doué, ultra doué. Mais un jour, il y a un pasteur qui l'a repéré et puis il l'a fait bosser. Il le faisait bosser jusqu'à faire 5 cultes par dimanche. Il disait à cette époque-là, c'était terrible. J'étais mort de fatigue. Et un jour, il s'est retrouvé, alors qu'il était dans l'ombre, Bénin l'a invité à une de ses croisades. Et il a dit, en un mois, les CD que j'ai faits étaient vendus partout dans 100 nations du monde. Comme ça, pif, ça s'est fait comme ça. Vous voyez, il y a des moments où vous êtes dans l'ombre, et d'un seul coup, surnaturellement, Dieu va vous mettre dans la promotion. Quand vous êtes prêt. Rappelez-vous d'une chose. Il y a une chose sur laquelle vous devez faire attention aussi. Ne dites jamais que vous attendez Dieu. Ne dites jamais que vous attendez Dieu. C'est Dieu qui vous attend. Si Dieu ne t'utilise pas dans la mesure de ta vision, c'est que tu n'es pas prêt. Le jour où tu dis, Seigneur, vraiment, je me sens complètement inadéquate à ça, que je ne me sens pas du tout prêt, c'est là où Dieu dit, tu es prêt maintenant. Mais trop souvent, les gens veulent faire les choses par leur propre force. Il y a un moment où tu dois être par terre. Il y a un moment où vraiment tu dois être purgé. Et ce n'est pas facile, ça. Des fois, ça demande vraiment des moments difficiles qu'on n'aime pas, par lesquels on n'aime pas passer. Joseph est resté 13 ans dans l'obscurité. Dans l'obscurité, chez Potiphar, dans la prison. 13 ans, il est resté. Mais au bout de 13 ans, il était prêt. Et d'un seul coup, Dieu va le faire monter. Numéro 2, qu'est-ce qu'il faut pour... Les leaders ont besoin de plusieurs choses pour être utilisables. Numéro 1, un temps de maturation. Numéro 2, les difficultés afin de devenir fort. Des difficultés afin de devenir fort. L'or est purifié comment? Comment est-ce qu'on purifie de l'or? Dans le feu, eh oui. Pour sortir l'or pur des impuretés, il y a quoi? Ben, il y a du feu, il faut. Les diamants sont créés seulement sous des pressions très fortes. C'est ce que les scientifiques nous disent. Et les grands leaders aussi sont créés sous de fortes pressions, des moments difficiles. La solitude, le rejet, l'abandon, l'incompréhension. Si tu as une grande vision, tu seras un grand leader. Et pour être un grand leader, tu auras de grandes souffrances. Il n'y a pas d'autre chemin. Les gens ne te comprendront pas. Tu amèneras quelque chose, les gens vont te dire, mais non, on ne s'intéresse pas à ça. On ne s'intéresse pas du tout à ça. Et il y a comme ça certains prédicateurs. Kenneth Hagin, dont j'ai fait l'école, c'est la même chose. À l'époque, il enseignait la foi. Mais les gens ne voulaient pas écouter ça. Pendant des dizaines d'années, alors que Dieu, Jésus lui avait apparu en disant, tu vas enseigner la foi à mon peuple. Et les gens, il avait des petites foules qui voulait l'écouter. Il a enseigné sur les finances aussi, et les gens voulaient rien écouter à l'époque. Et puis, au bout de 10, 20, 30 ans, il y a quelque chose qui s'est produit, et ça a été comme quelque chose que d'un seul coup, les gens venaient en masse écouter les mêmes enseignements qu'ils faisaient il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, les mêmes choses. Ils disaient, mais on n'a jamais entendu ça. Comme Miles Monroe, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Miles Monroe, il a beaucoup enseigné sur le royaume de Dieu. Bon, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas trop d'accord, où il dévie un peu trop vers le millénium, mais c'est autre chose. Mais il a un très très bon enseignement de base sur le royaume de Dieu. Et il dit, mais ça fait 15 ans que j'enseigne ça. Toutes ces années, personne ne voulait rien entendre sur le royaume. Alors maintenant, beaucoup de gens s'intéressent au royaume de Dieu. Mais il dit, ça fait 15 ans que j'enseigne ça. Vous voyez, des fois vous serez complètement dans l'incompréhension pendant des années. Et d'un seul coup, ouf, quelque chose va se produire. Mais il y a des souffrances, il y a des incompréhensions, il y a des moments difficiles, il y a de la solitude, il y a du rejet. Numéro 3, quelque chose dont tu as vraiment besoin, c'est la dépendance d'avec Dieu. La dépendance d'avec Dieu. Et quand je parle de dépendance, je ne parle pas des gens qui disent « Oh Seigneur, je veux dépendre que de toi ». Non, 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 que ça devienne une réalité dans ta vie. Ce n'est pas la même chose. Vous savez, nous, on a beaucoup de langage, hein. On appelle ça le patois de Canaan, hein. Le langage, là, des chrétiens, où on met beaucoup de choses à prêter. Quand on dit une phrase, il faut qu'elle soit enrobée de crème, d'alléluia, d'amen, de Jésus soit loué, etc. Vous voyez que c'est... Bon, tout ça, c'est bien gentil. Mais est-ce que c'est la réalité? Quand tu dis, Seigneur, vraiment, je dépends de toi, est-ce que c'est quelque chose que tu vis ou c'est quelque chose que tu dis au Seigneur juste pour lui dire parce que tu as entendu ça de quelqu'un d'autre? C'est pas la même chose, vous voyez? Vivre et dire simplement. C'est pas la même chose. Alors, il y a quatre phases de croissance dans le leadership. Quatre phases de croissance. Quatre phases de croissance dans le leadership. Parce que vous savez, les leaders potentiels, toujours, manquent de quoi? Manquent d'expérience. Les leaders potentiels manquent toujours d'expérience. Ils manquent de sagesse et ils manquent d'humilité. Soyons clairs. Les leaders potentiels manquent toujours d'expérience, de sagesse et d'humilité. Quelqu'un reçoit une vision de Dieu, il va faire n'importe quoi souvent, parce qu'il n'a pas d'expérience. Il va manquer de sagesse et il va faire des gaffes, des fois qui vont empiéter sa destinée. Donc les leaders potentiels, c'est comme ça. Et l'humilité, c'est pareil. Quand quelqu'un reçoit une vision du Seigneur, moi je vais tout changer, moi je vais apporter le réveil, Dieu m'utilisera moi seul. Non, non, il y a aussi les autres. Ah oui. Mais tu les as peut-être oubliés. Fais attention, ça c'est de l'orgueil. Et si tu es comme ça, tu seras brisé. En tout cas, Dieu ne pourra pas t'utiliser dans ton état comme ça. Il va falloir que Dieu fasse des choses. Donc les quatre phases. Numéro un, la phase d'ignorance. La phase d'ignorance. La phase d'ignorance. Et ça, Joseph s'est fait avoir avec ça. Il était complètement ignorant de la façon dont Dieu allait œuvrer dans sa vision. Il y a beaucoup de choses, vous savez, quand on reçoit. Moi, je me souviens, quand la première année où j'ai été sauvé, Dieu m'a dit, comme ça, tu seras directeur, tu dirigeras une école biblique. Je ne savais même pas ce que c'était qu'une école biblique. Et j'étais là, j'étais sauvé dans les églises pentecôtistes, et quelques, je ne sais pas, 6 mois, 1 an après, les gens qui nous avaient amenés au Seigneur, ils nous avaient invités à dîner, et il y avait un étudiant d'une école biblique des pentecôtistes, des assemblées de Dieu en France. J'ai dit, donc il y a une école biblique quelque part. J'ai commencé à m'y intéresser, puis j'ai acheté plein de bouquins de théologie, parce que moi je pensais que faire une école biblique, c'était faire de la théologie. Alors j'ai acheté des dictionnaires, j'ai acheté des trucs, des encyclopédies. À chaque fois que je trouvais un bouquin que je pouvais acheter, je l'achetais quelque part, pour essayer de me cultiver quelque part. Et puis, j'ai commencé à réfléchir, et je me suis dit, je vais tout faire pour aller dans cette école biblique. Et j'ai tout fait pour aller dans cette école biblique. Parce que mon raisonnement était le suivant. Je me suis dit, voilà, comme Dieu m'appelle à être directeur d'une école biblique, d'abord je vais étudier dans l'école biblique, la seule que je connaissais, c'est-à-dire du mouvement de Pentecôte en France. Une fois que je vais avoir le diplôme, comme Dieu veut que je sois directeur, obligatoirement, je vais devenir un enseignant de l'école biblique. Ça, c'était mon plan, hein, bien sûr. Et puis un jour, j'ai appris que le directeur était un vieil Américain. J'ai réfléchi et je me suis dit, mais je comprends ce que le Seigneur veut. Ce vieil Américain, il va bientôt partir. Et devinez qui sera le directeur. Vous voyez, on a vraiment des idées stupides sur la façon dont Dieu veut accomplir ses plans. On s'imagine tout un tas de trucs qui sont faux. Mais faux. Il y a plein de trucs qui sont faux comme ça. Parce qu'on pense que Dieu va agir de notre façon. Dieu n'agit pas selon ta façon. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et littéralement dans Ésaïe, c'est, mes plans ne sont pas vos plans. Et mes voies ne sont pas vos voies. Ça veut dire, la façon dont je veux réaliser votre destinée, ce n'est pas votre façon à vous. Ce n'est pas ce que toi tu prévois. Méfie-toi. Et il y a ce temps que les leaders doivent connaître. L'ignorance. Ensuite, le brisement. Le brisement. Ah. S'il y a bien un homme qui a été brisé, c'est Joseph. Il s'est retrouvé de fils de prince à esclave, sans salaire. Mais vous voyez, Joseph... Il a bien réagi. Il n'a jamais dit à Potiphar, « Hey Potiphar, moi, tu sais pas qui je suis, moi. Moi, mon père, il s'appelle Jacob. Et mon père est très riche. Et tu sais quoi, Potiphar? Mon père, il a des soldats. Et il va venir me récupérer chez toi. Donc, tu veux que je nettoie par terre? Mais tu blagues ou quoi? Moi, Joseph, le fils de Jacob, tu crois que je vais nettoyer par terre? » Non, Joseph n'a pas fait ça. Il a fait son travail par excellence. Et croyez-moi, c'était une humiliation. Il y a des temps dans le leadership, quand tu es formé par Dieu, où Dieu va te briser, il va simplement permettre que tu sois humilié, pour que ton caractère soit purgé de tout orgueil. Et il a été humilié, Joseph. Il s'est fait trahir par la femme de Potiphar, encore humilié, et il n'a rien dit. Ensuite, il va dans la prison, et il donne un rêve à celui qui servait le vin et l'autre qui servait le pain. Et il y a dit, il y en a un, je ne sais plus lequel, je crois que c'est celui qui avait le pain, ou je me gourre toujours entre les deux, mais peu importe, ce n'est pas ça l'important. Il y en a un qui va sortir, et Joseph lui a dit, toi tu vas sortir et tu vas être restauré auprès du roi. Et l'autre, il lui dit, toi tu vas mourir, le roi va te tuer. Et ça s'accomplit comme ça. Et celui qui a été restauré auprès de Pharaon, juste avant qu'il parte de la prison, Joseph lui dit, écoute, je suis dans cette prison, mais je ne suis pas coupable. Parle en ma faveur au Pharaon. Et le gars, évidemment, l'a oublié. 2 ans. Ah. Vous savez, il y a des moments où on a de quoi avoir beaucoup d'amertume envers les gens. Il y a des fois, je vous dis, où des gens vous ont donné des coups de couteau alors que vous leur aviez livré vos secrets personnels. Les Judas et les descendants de Judas existent. Et ils sont à droite et à gauche. C'est triste. Que Dieu les bénisse. Mais tu dois créer une carapace en tant que leader. Si tu ne crées pas une carapace, tu termineras mal. Et il y a des leaders qui sont aigris, blessés. Et quand quelqu'un est blessé et qu'il est leader, surtout quelqu'un qui parle à un peuple, un pasteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler. Et ça, c'est très mauvais. Quand un leader parle parce qu'il est blessé, ce n'est pas bon. Il faut apprendre à laisser toutes ces pierres d'achoppement que Satan met devant nous pour ruiner notre destinée, en faire des marchepieds. Parce que celui qui t'a trahi, que Dieu le bénisse, mais toi tu vas aller plus haut. Un jour je me suis retrouvé dans une assemblée générale de mon propre ministère, avec ma femme, au Burundi. Et on m'a voté dehors. C'était le renouvellement de la représentation légale, il y a 6 ans ça s'est passé. J'étais là, il y avait 12 personnes. Et il y avait des gars qui avaient préparé un coup, des coups d'État dans les églises. Et donc on devait renouveler, ça faisait 5 ans, on devait renouveler, et je dis, brave représentant légal, je dis, je me présente, y a-t-il quelqu'un d'autre qui va se présenter, parce que c'est légal de faire ça. Et je m'attendais à ce que personne ne se lève. Et il y a un gars qui s'est levé. À la fin du vote, il y avait 8 votes pour lui et 4 votes pour moi. C'était vraiment un Judas avec l'équipe, une partie de cette équipe. Je ne connaissais pas grand-chose à l'époque. Je vous garantis, ça m'a donné une leçon que je n'oublierai jamais. J'ai vraiment appris avec ça. Parce que je suis quelqu'un qui a tendance à faire confiance facilement. Mais j'ai vraiment beaucoup appris. Et c'était vraiment une pierre d'achoppement. Ils ont été au ministère de l'Intérieur. Ils ont tout fait pour me faire sortir. Tout fait pour me faire sortir. Et j'ai dit à ce gars-là, je lui ai dit, tu sais, c'est le Seigneur qui m'a donné ce ministère. Nous avons souffert pendant toutes ces années. Parce que vraiment, c'était les pires années qu'on a eues pendant les 6 premières années du ministère. C'était vraiment extrêmement difficile. Et je lui ai dit, tu sais, c'est pas contre moi que tu te bats. C'est contre l'onction qu'il y a sur moi et sur ma femme. Donc tu te bats contre Dieu, tu n'arriveras pas à bousiller ce ministère, à voler ce ministère. Il commençait à y avoir de l'argent, il commençait à y avoir pas mal de succès au niveau du ministère, mais il ne savait pas, il ne comprenait pas. Et si vous voulez, vous avez des gens comme ça parfois que vous rencontrez sur votre route. Mais ça m'a donné une leçon extraordinaire. J'ai vraiment appris ce jour-là. Le Seigneur m'a dit, fais de cette pierre d'achoppement un marchepied pour ta vie. Et ça a été un principe que j'ai toujours utilisé maintenant. Parce que vous savez, parfois, quand tu es en train de monter dans le leadership, il y a des gens qui feront tout pour te casser. Par jalousie, par convoitise, par toutes sortes de trucs. Ils ont été jusqu'au ministère de l'Intérieur. Ils ont mis un jour la police. Un jour, je suis arrivé. Avant d'arriver au culte, j'ai mon protocole qui m'appelle. Il me dit, pasteur, on ne peut pas accéder à l'église, il y a la police. L'église est fermée. J'ai dit, ah bon ? Effectivement, ils avaient mis la police. Enfin, ils ont fait tous les coups possibles et imaginables. Mais vous savez, Dieu vous défend, même si vous faites des erreurs. Parce que j'avais fait certaines erreurs. Mais il y avait un Judas qui avait profité de ces erreurs-là. Et vous savez, ces gens-là, il faut apprendre à leur pardonner. Il faut leur dire, écoutez les gars, c'est pas grave. Faites votre ministère si vous voulez. Moi, je continue ma route et je sais où je suis, tout simplement. Mais tu apprends. Mais les souffrances, tu en auras toujours. Surtout si tu ne fais pas attention. Et parfois, nous faisons des choses par ignorance. Parfois, nous faisons des erreurs personnelles. Et des gens profitent des erreurs personnelles. Mais le brisement, c'est important. Joseph a été trahi. La trahison, tous les leaders passent par la trahison d'une manière générale. Numéro 3, apprendre à reconnaître les opportunités divines. Apprendre à reconnaître les opportunités divines. Et là, Joseph a su faire. Joseph, quand il a interprété le rêve de Pharaon, il n'a pas dit « Bien Pharaon, j'ai interprété ton rêve, je suis la personne de référence. » Il a dit que Pharaon mette quelqu'un qui puisse organiser ça, faire des stocks, ouvrir des magasins un peu partout dans le pays, etc. Et pendant les 7 ans où il y aura la famine, on pourra profiter des 7 ans de stockage. Joseph n'était pas quelqu'un qui cherchait de l'autopromotion. Ne cherchez jamais l'autopromotion. Laissez Dieu vous donner la promotion. Laissez Dieu faire ce qu'il doit faire. Laissez-le faire. Reconnaissez des opportunités divines, oui. Mais laissez Dieu vous donner la promotion. C'est très important. C'est lui qui donne les promotions. Tous ceux qui se mettent là dans des rangs de prophètes, d'archiprophètes et de super machins, de ministères, de combattre ceci, des généraux, de je ne sais pas trop quoi, etc. C'est de la blague et de la farce. Quelqu'un qui prophétise 3 fois, il s'appelle prophète. Tu ne t'appelles pas plus prophète que je ne suis boulanger ou poissonnier. Les gens sont minables avec ça. Ils se donnent des promotions. Il y a des gens, parfois, ils vous présentent leur carte de visite, là, il y a 50 titres. Qu'est-ce qu'on s'en fout des titres? Ils veulent plus se faire appeler pasteur, ils veulent se faire appeler archbishop. Ah bon? Soyons simples. L'important, c'est les fruits que tu portes pour la gloire de Dieu. C'est tout. Rappelle-toi, Dieu ne te donnera pas un atome de sa gloire. Tu n'es pas capable de supporter ça. Le jour où tu passeras devant le tribunal de récompense, là, oui, la Bible nous dit que Dieu donnera la louange. Et tous ceux que tu auras impactés viendront devant toi et te diront merci. Peut-être que tu seras tout seul ce jour-là, même avec tes titres. Ce sera la honte pour toi. L'important, c'est ce que tu fais réellement selon les yeux de Dieu. Pas toutes les histoires que tu te mets sur le dos pour montrer que tu es quelqu'un d'important. Dieu n'est pas intéressé par ces gens-là. Dieu est intéressé par ceux qui servent selon son cœur. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et ça, on commence à le perdre beaucoup dans le corps de Christ. Faisons bien attention. Ensuite, la réussite. 4e étape, c'est la phase de la réussite. La phase de la réussite, c'est là où Joseph entre pleinement dans le rêve qu'il avait eu 13 ans plus tôt, c'est-à-dire d'être un grand leader, et aussi d'être un leader sur sa famille. Parce que c'est grâce à Joseph. D'abord, Joseph va implémenter ce qu'il a vu dans la vision, avec les histoires de vaches grasses, vaches maigres, et puis gras, et puis pourries. Et là, il va lui-même implémenter tout cela d'une façon pratique. Je vous rappelle, si vous n'êtes pas quelqu'un de pratique, qui n'arrivait pas à recevoir du ciel et à appliquer cela dans le naturel, vous avez un problème. Et je vous dis, il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça. Beaucoup de chrétiens avec leur vision qui ont du mal avec ça et n'y arrivent pas. Et se retrouvent bloqués avec ça. Donc en fait, il va réussir, il va accomplir ça. Et en plus, il va amener sa famille. Et il va créer l'incubateur pour que le peuple d'Israël puisse quoi ? Puisse se développer, puisse avoir un territoire. C'est ce que Pharaon va lui donner. Alors, quand nous passons dans ces processus difficiles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 5 choses à faire pendant la maturation, pendant les temps de maturation, les temps de difficulté. 5 choses à faire pendant les temps de difficulté. 5 choses à faire pendant les temps de difficulté. Numéro 1, glorifier toujours Dieu, même dans les temps extrêmement difficiles. Quand tout semble perdu, quand tout semble foutu, quand rien n'a l'air de marcher, si tu fais la bonne chose au bon moment, au bon endroit, glorifie le Seigneur. Parce que tu as des moments où tu as l'impression que rien n'avance, que tout sera là pour te dire « tu as eu tort, tu as pris le mauvais chemin », alors que tu as pris le bon chemin, alors que Dieu t'a parlé et que tu as agi sur sa parole. Moi, je ne peux pas vous dire combien de fois nos familles nous disaient « Qu'est-ce que vous foutez dans un pays où il y a la guerre civile ?» Vous avez tout laissé derrière vous, vous avez vendu votre maison. Vous êtes là, avec vos 6 enfants. Combien de fois on a eu ce genre de truc? Et on était au milieu des difficultés, des grosses difficultés. Mais on a loué le Seigneur. Et on a dit, Seigneur, merci parce que tu es là. Et on va s'en sortir avec toi. Numéro 2, saisir les opportunités pour aller de l'avant. Saisir les opportunités pour aller de l'avant. Joseph a saisi les opportunités tout le temps. Joseph, chez Potiphar, pour lui, c'était une école. Joseph a changé sa mentalité. Dans ces moments de souffrance, c'est là où tu acquiers la mentalité de Dieu. C'est là où tu vas travailler tes mentalités, ton attitude, ton caractère. C'est la meilleure école, mais c'est la plus difficile. Donc, tu dois apprendre à travailler à l'intérieur de toi dans chaque opportunité. Il y a trop de gens qui disent « Tant que le pasteur ne me laissera pas prêcher un dimanche sur deux, de toute façon, je ne ferai rien à l'église. » Ok, mon frère, c'est pas prêt. Ton ministère n'est pas prêt de commencer parce que tu n'as pas une attitude de service et d'humilité. Les gens veulent tout de suite faire les choses qu'ils ont vues. Tu commences par là où tu es et tu as une mentalité d'excellence. Comme je le disais récemment, faites attention. Il y a beaucoup de gens qui veulent de la promotion, mais ils ont un caractère de médiocre. Dans la médiocrité, Dieu ne donne pas la promotion. Il y a des gens, ils prient pour des promotions à leur travail et ils font leur boulot d'une façon dégoûtante. Excusez-moi de le dire. Ils arrivent en retard tout le temps, ils lisent leur Bible à chaque fois que le patron est parti, ils font n'importe quoi. Comment est-ce que tu vas avoir de la promotion? Comment est-ce que tu veux que Dieu voit et que tu attires sa faveur? Joseph, la Bible nous dit qu'il Dieu était avec lui, mais ce n'est pas par hasard. C'est lui qui attirait cette faveur par une mentalité d'excellence. Une mentalité d'excellence. Profite de chaque occasion pour faire du mieux que tu peux. Du mieux que tu peux là où tu es. Pas là où tu veux être, où le Seigneur t'a montré que tu seras. Ça, c'est un problème que nous avons. Et les gens ne comprennent pas que c'est dans la fidélité dans les petites choses que Dieu va te rémunérer petit à petit parce qu'il va voir qu'il y a quelque chose en toi de spécial. Parce que tu cherches vraiment à devenir excellent. Le caractère d'excellence, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, développement de l'intégrité. Ça, c'est très important. Joseph a été d'une intégrité exemplaire. L'intégrité, c'est quoi? L'intégrité, c'est rester le même. Dire et faire ce que tu dis. C'est une des définitions de l'intégrité. Tu dis, mais tu fais ce que tu dis. L'intégrité. C'est aussi ne pas pécher quand tu as toutes les occasions de pécher. C'est aussi une autre définition de l'intégrité. Donc, tu fais ce que tu dis, ça c'est l'intégrité. Fais attention aux paroles qui sortent de toi. Les promesses là, il y a des gens, ils sortent toujours, oui, je vais faire ça, je vais faire ça. Et ils n'ont aucune intention de le faire. Si tu n'as aucune intention de faire quelque chose que tu dis avec ta bouche, tu es quelqu'un qui manque d'intégrité. Et ça, Dieu te testera là-dessus. Vous savez, nous les prédicateurs, nous sommes très testés là-dessus. Moi, je fais très attention quand je dis quelque chose et que je dis « le Seigneur m'a dit », par exemple. Parce que sinon, c'est de la manipulation. Les gens commencent à dire « le Seigneur m'a dit qu'il y a 10 personnes ici qui doivent donner 1000 dollars, menteur ». Ça, c'est de la manipulation. Tu oses utiliser le nom de Dieu et ton influence pour manipuler des gens. Manque d'intégrité. Et l'intégrité, ça s'apprend à bas niveau. Et tu commences à grandir dans ton intégrité. Apprends à faire ce que tu dis. Sinon, tais-toi. Joseph était quelqu'un d'intègre au niveau du péché. Il voulait vraiment faire attention. Il a refusé la femme de Potiphar alors qu'il aurait pu largement en profiter. Numéro 4, grandir spirituellement. Grandir spirituellement. Nous sommes dans... Quand il y a des moments difficiles dans nos vies, qu'est-ce qu'il faut faire? Grandir spirituellement. Et là, c'est important aussi. Cultiver ta relation avec Dieu dans les moments les plus difficiles. Alors que tu ne vois pas tous les miracles, les guérisons que le Seigneur t'a montré dans sa vision. Ou les choses que le Seigneur a voulu te montrer. Et il t'a montré, il t'a confirmé. Continue à grandir dans le Seigneur. Ensuite, cinquième chose, c'est travailler ses mentalités. Travailler ses mentalités. Il n'y a rien de meilleur que les moments difficiles pour travailler ces mentalités. Tu es là quand il y a des pressions, quand il y a des choses qui ne tournent pas, quand personne ne croit en toi, quand tu es incompris, etc. Travaille tes mentalités. C'est une excellente opportunité pour dire « Je refuse de nourrir des ressentiments. Je refuse d'être offensé. Je pardonne, etc. » Je te garantis, tu vas sortir de ces moments difficiles avec un caractère complètement affiné. Un caractère transformé. Et là, tu vas devenir un grand leader. Joseph, c'est ce qui s'est passé pour lui. C'était un petit gamin, comme je vous le disais, orgueilleux, opportuniste, etc., etc., etc. Mais quand il est passé par ces moments de souffrance, il a été complètement transformé. Mais c'était un processus. Ça ne s'est pas produit du jour au lendemain. Ça ne se produira jamais du jour au lendemain. Donc Dieu, dans l'expérience de Joseph, c'est très simple. Dieu a utilisé, en fait, ses traits de caractère, ses mauvais traits de caractère pour faire quoi? Ni plus ni moins pour l'aider à être transformé. Dieu l'a mis à son école et Joseph a compris l'école de Dieu. Il a été entièrement transformé. Et par le processus qu'il a subi pendant ses 13 ans, alors qu'il était humilié, alors qu'il avait des moments difficiles, qu'il a été trahi, etc., etc., Joseph a acquis une telle mentalité d'excellence que le jour où il s'est présenté devant Pharaon, il a dit « ça y est, c'est mon jour ». Vous savez, dans le leadership, il y a un jour où ça devient votre jour. Mais ce jour-là n'arrive pas tout de suite. C'est ça la difficulté. Et souvent, les gens se font avoir. Ils veulent que ça arrive le lendemain où Dieu leur a parlé. Ça ne se passera pas. D'abord, tu dois passer par ces moments-là, les brisements, etc. Tout ça, la souffrance, tout ça, c'est une école. C'est une excellente école. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Eh oui. Et qu'est-ce que Jésus a souffert? Est-ce que Jésus a souffert la pauvreté? Non, absolument pas. Il était largement pourvu. Je pourrais vous le prouver dans l'Écriture. Est-ce que Jésus a souffert la maladie? Absolument pas. Tout ça, c'est des choses religieuses. On ne parle pas de cette souffrance. La vraie souffrance, selon Dieu, c'est justement, tu es là, soit tu as fait tes erreurs et tu subis tes erreurs, mais de tes erreurs, tu les utilises plutôt que ce soit une pierre d'achoppement en disant c'est foutu, ma destinée est foutue. Au contraire, t'en fais un marchepied et tu vas beaucoup plus haut et tu es transformé à l'intérieur. Et au bout d'un moment, Dieu ouvre surnaturellement la porte de ta destinée. Regardez Moïse, par exemple, il a eu le même problème. Moïse voulait faire quoi? Moïse avait un appel, ça brûlait dans son cœur quand il voyait son peuple être esclave, qu'il souffrait comme une bête. Et un jour, le grand Moïse, le grand libérateur, parce qu'il avait la vision de Dieu qui brûlait dans son cœur, s'arrête avec son char et il voit un Égyptien frapper un Hébreu. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais là, toi, soldat égyptien? Il le frappe, mais manque de peau, il frappe trop fort. Il le tue. Et Moïse se retrouve en dehors de sa destinée pendant 40 ans. Mais il va être à l'école de Dieu. 40 ans plus tard, quand Dieu lui apparaît au travers du buisson ardent, Dieu lui dit, tu vas aller délivrer mon peuple. Moïse dit, oh là Seigneur, c'est une vieille histoire. J'ai déjà donné, j'ai déjà payé 40 ans, j'ai pas envie de recommencer. Envoie quelqu'un d'autre. Il dit à Dieu, envoie quelqu'un d'autre, c'est fini ça. Bon, je suis tranquille, là, je suis avec mes petites brebis là. Là, mon petit coin tranquille, je veux qu'on me foute la pelle. Ces histoires-là, je veux plus en entendre parler. C'est quand tu dis, je ne suis pas prêt. Seigneur, vraiment, c'est foutu tout ça. Dieu peut ressusciter ton rêve. Il peut ressusciter ton rêve. Mais pour ça, tu as besoin d'être par terre. Tu as besoin d'être purgé, tu as besoin d'être purifié dans tes motifs. Le jour où tu es purifié dans ton caractère, tes motivations, Dieu dit, maintenant tu es prêt, lève-toi. Et là, tu diras, oh non Seigneur, je peux vraiment, non, j'ai été cassé, j'ai trop subi. Et c'est justement là où tu es prêt. Et c'est là où Dieu pourra te mettre dans cette promotion divine extraordinaire. Et ton rêve va s'accomplir sous tes yeux. Et tu vas dire, Seigneur, merci.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.